le 17h à Niamey lors du journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. À la une du journal ce vendredi 29 octobre 2021, la révision du projet de loi sur le statut et le financement des radios et télévisions associatives ou communautaires à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication ouverte hier. À suivre le rapporteur du CSC dans ce journal. Un seul enfant malvoyant inscrit cette année à l'école spécialisée de Birnin-Kwani depuis la rentrée scolaire le 4 octobre. À suivre dans cette édition, l'appel du responsable de l'établissement. Les changements climatiques favoriseraient-ils le développement de certaines maladies? La réponse avec des experts de la partie magazine de cette édition. La session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre 2021 s'est ouverte hier à Niamey pour 5 jours. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du projet de délibération mettant en place un groupe de travail chargé de la révision du projet de loi sur le statut et le financement des radios et télévisions associatives ou communautaires. Seyni Ayoub Kaka, rapporteur du CSC, explique au micro d'Adama Dawaki.
Au cours de cette session, un des points inscrits à l'ordre du jour, c'est la mise en place d'un groupe de travail chargé de réviser le projet de loi sur la presse électronique et celui relatif au statut et au financement des radio et télévision associative communautaire. En 2018, déjà, on a trouvé ces projets de loi. Il fallait donc reprendre le document pour l'actualiser. En fait, la loi sur la communication audiovisuelle a prévu que, justement, ces types de médias soient financés par le fonds public, donc par l'État. À travers ce projet de loi, le groupe de travail va travailler sur le document pour définir comment est-ce que l'État va financer ces types de médias et clarifier également le statut de ces médias. Du constat général, beaucoup de radios communautaires se créent tous les jours, mais par manque de financement, elles disparaissent du jour au lendemain.
Depuis la rentrée scolaire, le 4 octobre passé, l'école spécialisée pour les malvoyants de Birnin-Kwani de la région d'Ottawa n'a enregistré qu'un seul nouvel élève. Et ce, malgré les multiples appels lancés aux parents des élèves déficients visuels, souligne le directeur de l'établissement, Nassirou Djibo. Il explique au micro d'Assoumane Arzika.
Jusqu'à présent, nous sommes confrontés à cette problématique. À l'heure actuelle, nous n'avons qu'un seul enfant. À plusieurs reprises, nous avons fait des annonces à la radio pour dire de venir inscrire les enfants de 7 ans jusqu'à 10 ans et même plus. Mais jusqu'ici, c'est un seul enfant qui a un problème de vue que nous avons en classe de CI. D'ailleurs, nous l'avons même dit, ceux qui ont complètement perdu la vue peuvent être inscrits. Et aussi, si toutefois le parent a l'évidence que la vue de son enfant n'est pas tout à fait nette, il peut venir l'inscrire. Il ne faudrait pas que cet enfant soit inscrit à l'école traditionnelle et qu'après il soit confronté à un problème de vision. Ici, il y a un module d'écriture qu'on peut lui apprendre destiné aux non-voyants. Ils sont nombreux ces enfants non-voyants, mais les parents ne veulent pas les inscrire. Nous les voyons un peu partout. Vraiment, il faut dire que ces parents sont en train de piétiner le droit de ces enfants.
Toujours dans le secteur de l'éducation, plus de 100 élèves par classe, le manque d'enseignants ou le matériel didactique sont les problèmes rencontrés au complexe d'enseignement secondaire de Baleyara, région de Tillabéri, selon le président du comité de gestion scolaire de la localité. Djibo Oumarou, président du COGES, lance un appel aux autorités et aux ressortissants de la localité pour atténuer ces problèmes. Il est au micro de Hassan Moumouni.
Cette année, nous allons construire 19 classes en période plaise à Dieu. Et pour chaque classe, il faut 16 séco. Et même avant-hier, nous avons acheté l'unité de séco à 3250 francs CFA. Actuellement, nous avons un lot de 128 séco et un autre de 125 à notre disposition. Les effectifs des élèves de 6e de ces hangars varient entre 106 à 110 élèves, ce qui constitue un véritable problème pour leur suivi, car l'enseignant ne peut pas les surveiller tous. Il y en a même qui dorment. Entre autres problèmes que nous avons, c'est le manque de tables dans les classes de 5e et 6e. Mais notre plus grand souci que nous souhaitons partager avec les ressortissants de Baleyara qui ont les moyens est la construction d'une clôture pour cette école. Ensuite, solliciter auprès des partenaires au développement la construction d'au moins une dizaine de classes en matériaux définitifs.
et de la région de Dosso, les acteurs de l'école ont organisé hier un forum régional sur l'éducation en vue de contribuer à réduire les abandons et les exclusions des élèves, en particulier les filles, des enseignements primaires et secondaires. Ils ont décidé à la fin de la mise en place d'un comité de veille pour le suivi des recommandations. Moru Issa, point focal régional, au micro de Aoussi Abdraman.
Ce forum est organisé suite à des constats. Il y a eu le forum de mars 2020 où la communauté de Solèze a pris des engagements consistant à réduire le taux d'abandon et d'exclusion des élèves, en particulier des filles. Après ce forum-là, nous avions remarqué que les engagements que les acteurs de l'école au nom de la région, il y a beaucoup d'engagements qui n'ont pas été atteints. Ils sont fixés comme engagement d'atteindre un taux de 60% au niveau des deux sexes. Et malheureusement, ce taux-là n'a pas été atteint. On s'est arrêté à 51% pour le taux régional. Et ce taux aussi varie d'un département à un autre.
Le centre régional de transfusion sanguine de Maradi fait face à une forte demande de sang qui dépasse ses capacités de collecte, a indiqué le responsable du dit centre. C'est pour lui venir en aide qu'une association des jeunes a organisé samedi dernier une collecte de sang dans un établissement scolaire. Pour Maman Aminou Bra du CRTS, ces genres d'initiatives sont les bienvenus pour aider les malades. Il est au micro de Mohamed Maman.
Le samedi, on était au niveau du CRS Bagalan. Suite à la mobilisation menée par ces jeunes, nous avons pu collecter une quantité importante de sang, environ 97 poches de sang. C'est combien important pour nous et soulageant pour la structure CRTS et toutes les structures qui utilisent le sang au niveau de Maradi. Nous avons une demande 3 ou 4 fois plus importante que l'offre. Actuellement, nous n'avons pas de sang suffisant pour satisfaire toutes les demandes. Et deux fois, on vit au jour le jour le sang qu'on collecte du matin à midi, c'est ça qu'on teste. Les malades ou les patients sont en train d'attendre, c'est ça qu'on sert. Ce qu'on collecte maintenant entre midi et 18h, c'est ça qu'on teste pour servir les malades. Et ce qu'on collecte dans la nuit, c'est ça qu'on teste le matin pour servir. Mais avec cette collecte, nous avons eu un souffle. Parce que nous avons eu une petite réserve qui va nous permettre au moins de soulager un tant soit peu les demandes.
Au Niger, dans les mois de septembre et octobre 2021, plusieurs localités des zones pastorales des régions d'Agadez, Tawa, Maradi et Zender ont connu des feux de brousse. Une situation qui va compliquer davantage la situation du cheptel avec le manque de pâturage, selon le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger. El Hadj El Mansour Mohamed au micro de Mokhtar Hamadou.
Au début de la campagne hivernale, les éleveurs pasteurs ont espéré avoir une bonne campagne pastorale. Mais à l'épreuve des faits, il y a eu des aléas, parfois des interruptions de pluie. Et viennent s'ajouter cette série de feux de brousse qui ont fait des ravages dans la zone pastorale. Quand vous prenez la région d'Ingal, la région d'Abalak, Tchantabaraden, Tanout, Nord-Bermo, où récemment, le 25 au 26 octobre, plus de 17 000 hectares ont été décimés, plusieurs têtes de bétail ont été consumées. Imaginez, Abalak, c'est plus de 112 000 hectares. Et c'est des feux de brousse qui ont été observés dans la zone principalement de l'élevage, où il y a du fourrage. Et cela, de mon point de vue, va aggraver déjà le déficit fourrager que nous avons. Il faut que les pouvoirs publics prennent le devant en rendant disponible, pendant la période crique, l'aliment bétail.
La réserve biosphère de Garbeji, dans le département de Dakoro, région de Maradi, accueille depuis quelque temps les girafes relocalisées de Kouré. Mais l'espace n'est pas menacé par les feux de brousse qui se sont déclarés dans la zone, selon le colonel Sanoussi Fatima, conservateur de la réserve. Il parle des mesures prises contre les feux de brousse au micro de Adamu Oumarou.
Nous avons entrepris un certain nombre d'activités, notamment l'intensification des mesures de protection et surveillance. Nous avons également intensifié la campagne de sensibilisation à l'endroit des populations locales sur l'effet de brousse. Il y a également la réalisation des bandes parfaites. On a déjà commencé grâce au financement du projet de gestion durable de la biodiversité et des aires protégées. Depuis le début du mois d'octobre, nous avons commencé la réalisation des bandes parfaites. L'effet de brousse, ça joue beaucoup sur la faune sauvage en général. Pour le moment, vraiment, la réserve de Garbeji est encore épargnée. Nous espérons que ça va continuer. Parce que maintenant, c'est la période vraiment critique, surtout avec le mouvement des éleveurs transhumains. Pour le moment, vraiment, les girafes sont épargnées. Elles se portent très bien, se sont bien adaptées à l'habitat. Aucun signe d'anomalie n'a été constaté. À l'intérieur de la réserve, quand même, le pâturage est très bon. Il y a de la paille partout. Vous savez, la girafe, elle ne brûle pas la paille. Elle fait le pâturage aérien. Toutes les espèces végétales affectées par la réserve sont bien en place. Donc, il n'y a aucun problème par rapport au pâturage.
Après deux semaines de résidence au Centre culturel franco-nigérien de Zender, la compagnie Noblesse Danse du Bénin a présenté un spectacle retraçant le parcours du roi Béhanzin du Dahomey actuel Bénin. Serge Amoussou-Guénou, formateur, chorégraphe, danseur et directeur artistique de la compagnie, explique la chorégraphie au micro d'Ali Keïta.
D'abord, nous avons fait une première étape, une deuxième étape au Burkina. La troisième étape, c'était au Mali. Sans s'en changer, et je voulais faire normalement quatre étapes parce qu'il y avait une Nigérienne dans le groupe. Donc, il fallait faire également au Niger. Zender, parce que à chaque fois, tout se passe à Niamey et il faut également découvrir d'autres zones, d'autres villes du Niger. Ce qui est derrière, c'est un message. Mais ça qui est lancé à l'endroit de la population, mais ça qui est lancé à l'endroit des dirigeants politiques. L'exemple de Béhanzin est un exemple. Et nous avons également d'autres exemples. Déjà, je suis béninois, donc il va faire la promotion de la culture, la promotion du patrimoine culturel, patrimoine matériel et immatériel de mon pays. Naturel que j'aille dans ça. Maintenant, si je fais un autre spectacle, toujours engagé, et dans cette optique, je peux prendre Samori Touré, je peux prendre Soujata Kenta et d'autres, même et Thomas Nga.
Au Niger, plus d'un million de cas de paludisme et au moins 900 décès ont été enregistrés au cours du mois de septembre 2021. Selon les experts du cadre national pour les services climatiques, les conditions climatiques seraient en partie responsables de la maladie. Quelles sont les situations climatiques favorables au développement des maladies? Les experts répondent au micro d'Olivier Assok-Bavi, c'est dans la partie magazine.
Certaines maladies comme le paludisme sont considérées comme des maladies saisonnières. Selon Katiela Lawan, directeur général de la météorologie du Niger, de façon générale, la santé humaine est impactée par les conditions climatiques.
De façon générale, c'est sûr que la santé humaine est impactée par le climat. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont impactées par le climat, mais il y a des maladies dites climato-sensibles. Et donc, ça veut dire qu'il y a des paramètres climatiques, tels que la température, l'humidité, les précipitations, la chaleur ou bien la poussière, qui peuvent agir sur la santé humaine. Et donc, jouer un rôle, effectivement, dans ce domaine-là, en créant ou en induisant des maladies ou en aidant à leur propagation. Et on a dit, la maladie cette année la plus énormément au sud du pays, c'est normal qu'il y ait beaucoup de flaques d'eau, n'est-ce pas? Et cela a créé des conditions pour le développement, n'est-ce pas, de cette maladie de choléra.
Cette situation n'est pas la même dans toutes les régions du pays. Certaines sont plus exposées à des maladies comme le paludisme et d'autres le sont moins. Docteur Issaka Salifou est épidémiologiste au ministère de la Santé publique. Il explique.
Les conditions climatiques qui sont favorables au développement de ces maladies sont les précipitations, la température et l'humidité. Donc les régions dans lesquelles ces situations se regroupent favorisent au développement de ces maladies. On peut aisément deviner les régions, particulièrement les régions du sud, comme Tillabéri, Niamey, Dosso, une partie de la région de Tawa et Zender. Par contre, les régions où ces conditions ne sont pas du tout réunies, on observe un faible impact ou bien même l'inexistence de ces maladies dans ces régions. Ces régions sont précisément Agadez et la région de Diffa.
Si le paludisme est considéré comme étant une maladie climato-sensible, les mesures de prévention devraient-elles être différentes selon les saisons? Docteur Issaka Salifou répond.
Vous savez que nous vivons le paludisme tout au long de l'année au Niger. Donc certaines mesures, on doit les conserver tout au long de l'année. Et certaines mesures aussi, on les met en œuvre au moment des précipitations, comme la chimio-prophylaxie pour la prévention du paludisme que le gouvernement du Niger, à travers le ministère de la Santé et le programme PALU, a décidé de protéger les couches vulnérables, c'est-à-dire les enfants de 3 mois à 5 ans. Et les autres mesures sont les mesures que vous et moi, nous devons observer toute l'année. L'hygiène, la salubrité et dormir sous moustiquaire imprégné.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Habiba Ahmed vous présentera le journal en tamashek. Et à 18h15, le programme continue avec Michel Dédi pour le Forum de la presse. Quant à moi, rendez-vous le mercredi prochain pour l'édition en français du jour.